Pavillon Nomade, le direct.
Bienvenue dans Pavillon Nomade, la radio qui se balade. Et aujourd'hui, on a pris le train pour rejoindre Genève et les rendez-vous de l'urbanisme. 3 jours pour parler du sol, un sol mesuré, remodelé, transformé. Un sol sur lequel les villes s'organisent et nos vies se déroulent. Un sol avec ses fragilités aussi. On va en parler durant cette heure d'émission en direct sur le site www.pavillonnomade.ch ou en différé à la même adresse. Autour de la table, Dolores Bertret, Camille Fréchoux et Gabriel Binder qui va co-animer cette émission avec moi. Sans oublier Dominique Stalder qui assure avec Maestria la réalisation assistée par les techniciens ici présents également. On parle du sol au pavillon Cycli et dans la ville de Genève. Juste comme ça, au déboté, si je vous demande, Dolores Bertret, Camille Fréchoux, un mot pour définir le sol. Lequel est-ce pour vous, Camille Fréchoux?
Moi, je veux dire, pour le définir, sombre, souterrain.
Et vous, Dolores Bertret, un mot?
Moi, je dirais socle.
Socle. Dolores Bertret, vous êtes paysagiste urbaniste et chercheuse associée à l'Institut de la gouvernance de l'environnement et du développement territorial de l'Université de Genève. Et vous avez publié dernièrement aux éditions Métipresse un livre, plutôt une enquête que Gabriel tient dans ses mains, sur la filière du sable en Asie du Sud-Est. On va bien évidemment en parler. Et donc, Camille Fréchoux, vous êtes également présente, vous êtes paysagiste. La terre est votre élément et vous avez parcouru, peu avant de nous rejoindre, un site qui a beaucoup fait parler de lui à Genève, une ancienne station d'épuration devenue un centre culturel avec un sol aux particularités géographiques spécifiques et riche forcément d'une histoire. On va aussi en parler. Ces rendez-vous de l'urbanisme, cette année, reviennent donc aux racines de l'aménagement en revisitant le sol comme élément fondateur.
Le direct.
Première question, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle du sol? Dolores Bertret.
Je vais reprendre peut-être le mot que j'ai utilisé juste avant, qui était le socle. À mon avis, le sol, c'est avant tout le socle sur lequel... On se mue au quotidien, que ce soit humain et non humain, mais c'est un peu la base de tout. C'est-à-dire que d'avoir des sols sains, c'est aussi représentatif peut-être d'une société saine.
Le sol, ça serait donc ce qui est visible?
Non, c'est aussi beaucoup ce qui est invisible et souterrain. Mais ça, je pense
que... C'est pas que la surface, donc.
Camille Fréchoux.
C'est pas que la surface, mais en fait, c'est tout aussi riche que la surface, en effet, même si on ne le voit pas. Mais ça s'apprend de le voir, de le regarder, de le comprendre. En tout cas, ça sollicite beaucoup l'imaginaire pour comprendre que ça vit et qu'il y a beaucoup de monde en dessous.
Pourquoi le sol devient, il me semble, un sujet d'importance pour lequel, par exemple, on se retrouve autour de cette table, d'après vous, Dolores Bertret?
En tout cas, si on prend le contexte urbain, le sol, il est très peu naturel, finalement. Donc, il a été beaucoup modelé, ce qu'il y avait remodelé, on l'a terrassé. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, c'est des successions de couches qui ne sont plus vraiment, on va dire, originelles, mais qui recomposent elles-mêmes un sol, donc peut-être dit artificiel, mais qui reste sol tout de même. Et donc, ça pose énormément de questions après pour la suite, notamment qu'est-ce qui vit encore et qu'est-ce qui ne peut plus vraiment vivre dans ces sols aussi.
Oui, comme vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de vie en dessous, mais il y a aussi beaucoup d'aménagements. Ça, c'est impressionnant, tout ce qui passe dans ce sol, dans ces sous-sols.
Oui, alors, tout ce qui est... réseau divers, en effet, ça c'est vrai que c'est pas trop ma partie, mais tout ce qui passe dans le sol. En tout cas, on en prend conscience d'autant plus maintenant, mais pendant très longtemps, je pense, notamment dans mon métier, chez les paysagistes, chez les aménageurs, les aménageuses, le sol c'était pas vraiment un sujet. Disons que c'était quelque chose qu'on pouvait déplacer, remplacer, transbahuter, et c'est vrai que. C'est quelque chose sur lequel on revient, fort heureusement, maintenant.
On y revient parce qu'il se raréfie.
on y revient parce qu'on comprend qu'en fait, un sol, ce n'est pas juste un espèce de matériau comme ça qui est déplaçable et qui est remplaçable. En fait, c'est des strates, c'est des horizons. Et c'est différents éléments, toute une faune en fait qui vit selon les épaisseurs de sol en fait. Donc ça c'est de la pédologie, c'est pas forcément ma spécialité, mais en tout cas c'est très organisé. C'est des choses qui un sol ça met des dizaines et des dizaines voire des milliers d'années à se constituer en fait. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en fait. Si on chambarde de tout, c'est irréversible. Ou en tout cas, ça, on est reparti pour des siècles à reconstituer les choses. Donc, on a tendance à en prendre plus soin, quoi.
Et ces strates, d'ailleurs, c'est des strates un peu historiques. Quand on descend dans l'histoire un peu.
Ça peut. Alors, c'est vrai que nous, les paysagistes, on s'occupe surtout des, dix premiers centimètres, ou en tout cas, les quelques premiers mètres, disons. Mais sinon, ça, après, on passe dans le domaine de la géologie.
Mais justement, est-ce qu'un paysagiste, vous êtes les deux paysagistes, est-ce que le ou la paysagiste tient compte du passé lorsqu'il arrive sur un sol, Dolores Bertret ?
Ben, j'espère. En tout cas, je ne sais pas toi dans ta pratique, mais
j'espère aussi, oui. Bon. Par exemple, on parlait de Porteus. Ou...
Donc c'est cette ancienne...
En fait, c'est
station d'épuration.
C'est la station d'épuration qui est à Vernier, donc la presqu'île sur la presqu'île d'Aïr, et qui est toujours en activité, mais qui s'est délestée en fait d'une partie d'un de ses bâtiments. Et Porteus, c'est le nom d'une technologie qui servait à traiter les boues en fait. Donc c'est tous les déchets, tout ce qui restait de matière solide après le traitement des eaux. Et donc cet endroit-là a été, enfin, en tout cas, une partie de la steppe et Porteus, ce bâtiment en particulier, était construit sur ce qui était quand même un ancien centre d'équarissage, puis une déchetterie. Donc là, pour le coup, on a un sol qui est ce qui est, qui est composé de déchets. C'est d'ailleurs assez mystérieux parce qu'en fait, un sol, on ne sait pas vraiment de quoi il est constitué tant qu'on n'a pas creusé, ouvert, fait des carottes, fait des sondages. Et en fait, on reconstitue ce qui a pu se passer ou son historique par rapport à ce qu'on lit sur les cartes, en fait, les cartes anciennes, les anciennes photos aériennes. C'est pour ça que je parlais de... Enfin, c'est très riche, mais c'est mystérieux aussi. Il faut trouver des moyens de comprendre ce qu'il y a dedans.
Vous parliez de déplacer ces sols. Aujourd'hui, on sait que dans les chantiers, on est très attentif à l'énergie grise, on tente de déplacer le minimum. C'est bien juste. On ne va plus chercher de la terre végétale à l'étranger pour la remettre ici.
Je ne sais pas, en Suisse, vous faites comment ? En France, on essaie de moins le faire, mais moi, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de déplacements. Qu'on n'aille pas le chercher à l'étranger, c'est une chose. Après aussi... qu'on aille chercher de la terre végétale, par exemple, sur les terres agricoles. Ça, c'est un vrai souci, en fait. Alors, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on en est, mais...
Bah, en tout cas, pour avoir étudié un tout petit peu la question sur les mobilités et la circulation des sols et des sous-sols aussi, c'est aussi possible que, par exemple, il y a des conteneurs qui partent d'Afrique et qui circulent jusqu'en Chine, par exemple, qui sont remplis de terre, typiquement. Et de terres de bonne qualité. Donc il y a des endroits dans le monde où en fait on n'a pas de terre. On peut prendre aussi d'autres exemples comme la cité-état de Singapour ou quoi, où là on est obligé de fabriquer de la terre et forcément quand on la fabrique on l'importe de quelque part quoi.
On n'a pas de terre parce qu'on est directement sur les rochers, ça voudrait dire ?
Ou qu'on est sur la mer et que du coup c'est un peu compliqué. Ou alors on a tellement souillé sa terre qu'on n'a plus de terre vivante, c'est aussi ça. Le sol, il faut qu'il soit vivant en fait.
Vous vous êtes intéressé à un sol particulier, donc le sable, hein. Et j'ai appris qu'il y avait un trafic de sable et que le sable était une matière première convoitée. Vous nous en dire un peu plus ?
Oui, donc j'ai fait une étude qui retrace la filière du sable donc en Asie du Sud-Est et je me suis intéressée à comment est-ce que ce matériau en fait qui est invisible mais omniprésent, vous portez par exemple tous les deux des lunettes donc vous avez du sable dans vos verres et en fait on en parle peu et c'est la deuxième ressource après l'eau la plus consommée sur la planète. Donc il y a 50 milliards de tonnes de granulats qui sont extraits chaque année, dont 30 milliards qui vont servir au secteur de la construction. Et en fait, c'est aussi un sable qui est convoité, mais ce n'est pas n'importe quel sable qui est convoité. C'est le sable qui va être mobilisé dans le secteur de la construction particulièrement. Je vous donne un exemple. Dubaï, qui s'étend aussi sur la mer, est pourtant à l'entrée du désert, donc à une quantité de sable a priori disponible vraiment à quelques mètres d'elle. Simplement, ce sable-là, il n'est pas mobilisable dans le secteur de la construction. Donc Dubaï importe du sable d'Australie pour aller polyériser sur la mer et construire des terres habitables.
Et pourquoi le sable de Dubaï n'est pas mobilisable dans la construction ?
Parce que c'est un sable qui a été érodé par les vents et pas par l'eau. Donc c'est un sable qui est plutôt arrondi. Et en fait, il a une structure qui est homogène. Et donc, pour la composition du béton, donc le béton, c'est des granulats, de l'eau, du ciment, du sable. Eh bien, en fait, cette composition chimique-là ne va pas adhérer pour faire un béton stable et de qualité. Donc, on privilégie des sables plutôt de rivière qui ont, du coup, une composition chimique idéale, on va dire.
Est-ce qu'il y a des études ou des recherches en cours pour pouvoir justement utiliser ce sable de Dubaï, le sable du Sahara ? Parce que là, il y a une sacrée réserve de sable.
Là, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être changer, du coup, la recette du béton. Mais on n'espère pas qu'ils vont le faire, déjà, petit. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces 20 dernières années, la quantité de sable extraite dans le monde a triplé. Donc, on est rendu en fait à un extractivisme qui est sans précédent, et ça questionne évidemment pour la suite.
Oui, parce que le sable n'est pas une matière infinie.
Non, c'est une matière finie puisque nous sommes déjà, je rappelle, sur une terre finie, surtout en fait, il y a une temporalité qui est différente de celle de la temporalité humaine. Donc, le sable pour devenir sable, donc ce qu'on appelle sable, peut-être je le rappelle, hein, le sable c'est une granulométrie, donc c'est situé entre 0,0625 mm et 2 mm. Au-dessus, on appelle ça les graviers, et en deçà, c'est les limons ou les boues. Et donc le sable, c'est vraiment une catégorie granulométrique très spécifique. Et ce sable, en fait, il met des millions d'années à se former. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'extrait à une vitesse qui ne permet pas au renouvellement naturel de fournir la quantité que nous, on extrait actuellement.
Ce qui veut dire qu'il y a une échéance.
Absolument. Et dans certains endroits du monde, particulièrement, cette échéance arrive très rapidement. Donc un petit exemple dans le détail du Mékong que je connais bien, au Vietnam particulièrement, on estime que dans 10 ans, ces deux chercheurs estiment que dans 10 ans, il n'y aura plus un seul grain de sable qui pourra être prélevé du delta du Mékong au niveau du Vietnam, parce qu'il y a des constructions de barrages en amont. Donc le sable qui arrive au Vietnam, il a traversé 4000 km, il a été roulé et transporté dans le Mékong. Et donc aujourd'hui, il ne va plus être capable en fait, de descendre parce qu'il y a ces barrages. Mais en plus de ça, on extrait le sable comme jamais, puisqu'on est à plus de 46 millions de mètres cubes qui sont extraits chaque année dans le Mékong. Donc voilà, et ça va continuer puisque le développement des infrastructures du secteur de la construction continue.
On pourrait avoir, dans le cas du sable, ce qu'on annonce dans le monde pétrolier, un pic. Et puis, à partir d'un certain pic de consommation, une raréfaction, donc une hausse des prix, c'est un scénario envisageable.
Alors, on est sur un marché qui est un peu différent. Ce n'est pas un marché de matières premières comme le pétrole, comme par exemple les cultures céréalières, parce qu'en fait, il n'y a pas de marché financier du sable. Encore. Pas encore. Et donc, en fait, c'est plutôt quelque chose qui reste localisé, mais on l'a déjà évoqué, il y a quand même des circulations de sable à travers le monde. Donc on pourrait aussi imaginer que cette tendance va s'inverser. Et d'autant plus parce que les besoins continuent d'être croissants, notamment dans certaines régions géographiques, mais aussi parce que finalement, même en Suisse, on a besoin d'entretenir, on a besoin de maintenir, et tout ça, ça nécessite des granulats. Et de fait, la ressource est finie.
Et la Suisse, elle produit assez de sable ?
Pour sa propre consommation ? Ça, je n'aurais pas la réponse. Mais la Suisse a du sable.
Elle en apporte donc.
Ça, je n'ai pas étudié finement la question, donc je préfère ne pas répondre à ça.
La terre végétale aussi devient une denrée rare, on en a parlé. Elle est pourtant essentielle à la régénération des sols, hein, Camille Fréchou.
C'est vrai qu'après, évidemment, cette raréfaction de la ressource, enfin le fait qu'on soit sur des ressources finies, un monde fini, c'est une évidence, c'est dramatique ce qu'on fait un peu de tout ça, mais en tout cas il y a quelque chose que moi je trouve assez réconfortant sur la question du sol, et je prends du point de vue de moi paysagiste, et je suis jardinière aussi, j'ai fait beaucoup de chantiers dans ma vie, beaucoup, et je pense que c'est ma conception du sol aussi qui est forgée comme ça, c'est-à-dire que en fait un sol, ça peut quand même se régénérer, se reconstituer. Évidemment, là, je ne suis pas en train de parler sur des milliers d'hectares de sols qui ont été dégradés, notamment par des agricultures intensives très délétères. Il ne faut absolument pas du tout encourager ces choses-là. Mais par contre, en tout cas, à l'échelle du petit projet urbain, du petit projet de paysage, il y a de plus en plus de paysagistes, en tout cas moi je fais partie de ces gens-là, qui partent du principe que en fait on fait avec le sol qu'on a et on s'attache à le ramener à la vie, à le réactiver en fait, c'est-à-dire en désimperméabilisant, en ramenant de la pluie, de l'air, en ramenant de la vie aussi, c'est-à-dire qu'en c'est un peu comme une recette en fait, un sol ça peut se retravailler lentement avec soin. Et petit à petit, on peut ramener de la matière organique, on peut ramener toute la microfaune aussi qui vit dans le sol. Enfin, et donc, il y a quelque chose que moi, je trouve assez réconfortant par rapport à l'époque qu'on vit, que je trouve... Je suis horrifiée, en fait, par la manière dont on traite, en fait, nos ressources, nos sols. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réconfortant de se dire qu'il n'y a pas de cause perdue. En tout cas sur des sols urbains comme on a ici, c'est-à-dire qu'en fait en général on part d'assez loin, et donc on peut toujours les réactiver et au contraire ne pas tout décaper sur 1 mètre ou 2 mètres de profondeur, d'aller chercher de la terre végétale sur des terres agricoles et de venir ramener en s'imaginant qu'on recrée un sol fertile comme ça. Ça c'est vraiment une démarche que je pense que dans notre métier on essaie de laisser de plus en plus de côté, enfin en tout cas je l'espère. C'est plus cette question de prendre soin qui peut être un peu galvaudée maintenant. Mais
justement, comment ça se passe quand vous êtes sur une friche industrielle comme celle de cette station d'épuration pour réaménager le sol? Comment est-ce que vous pratiquez?
En fait, Porteus, il faut l'imaginer, c'est le long du Rhône. Donc ça, c'est dans un grand corridor boisé qui est une ripisylve, donc qui est ce cortège de forestiers, donc toutes ces espèces qui aiment plutôt les berges et les milieux humides. Donc on a ce cordon forestier et on a Porteus, qui est quand même une grosse clairière de béton en fait, qui interrompt ce continuum écologique. Enfin, c'est comme une trame verte. Et donc on a des sols ultra minéraux, quoi. Donc que ça soit plutôt de l'enrobé ou du béton, et tout ça était lié à une espèce de fonction, comme ça, industrielle. Et par-dessus le marché, en fait, au moment des travaux, toutes ces choses-là, on les sait parce qu'on regarde les photos de chantiers de l'époque. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un jeu d'enquête, quoi. Et donc, on regarde ça et puis on regarde des cartes, même certaines qui remontent jusqu'au 19e siècle. En fait, on regarde la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux. Et donc, on comprend, en fait, que c'était un peu soit la déchetterie ou le. Avec le béton, le bitume que la station d'épuration a mis, en fait, ça a cloisonné toute une pollution en fait qui est dans le sol comme ça. Et donc comment on gère ça? C'est-à-dire en fait comment on fait un centre socioculturel sur un endroit pareil, quoi? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le sol? Est-ce que si on ouvre le sol, ça va pas au contraire augmenter la pollution, la faire s'infiltrer dans le Rhône? Est-ce que ça va pas polluer la nappe du Rhône? Est-ce qu'on peut faire pousser des légumes? Est-ce qu'on peut faire pousser des fruits là-dessus? Est-ce que si on ouvre, en fait, on n'aura pas une pollution volatile en fait qui fait que nous on pourra plus arpenter ces terres? Enfin, c'est énormément de sujets en fait quand on commence à ouvrir ce genre de sol, quoi.
C'est la boîte de Pandore un peu, alors.
Oui. Et puis la pollution, en fait, on trouve que si on cherche, c'est valable pour l'eau aussi, et c'est pour ça qu'on a souvent une très petite idée seulement des dégâts de pollution qu'on a occasionnés dans l'eau et dans le sol. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas fait ces analyses. Mais par contre, on sait que toute cette imperméabilisation, elle sert à cloisonner une pollution qui est plutôt domestique en dessous, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Évidemment qu'on n'est pas sur du nucléaire ou alors des hydrocarbures lourds ou des, enfin, mais malgré tout, on se doit d'être précautionneux, quoi. On peut pas juste se dire c'est positif, on désimperméabilise. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, en vous écoutant, je me disais le béton c'est l'ennemi du paysagiste, mais pas forcément, parce qu'effectivement, il cloisonne un peu et ne permet pas. Peut-être une pollution de s'étaler, par exemple.
Le mieux, c'est comme les déchets. Hein. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas, quoi. Bah, la pollution. Ouais. Mais en effet, et après, on peut cloisonner. Souvent, on cloisonne avec de l'argile aussi. Donc, ça peut être aussi des nappes d'argile. Ça dépend du terrain qu'on a. Ouais.
Mais Marie-Claude, vous avez une vision un peu romantique du béton. Hein. Le pont du Gard est en béton. Donc, le béton, c'est une matière absolument magnifique. Je ne suis pas sur son béton ici, mais ça se prête à toutes les formes. C'est souple, ça prend, ça adhère au bois. Non, ça, qu'est-ce que vous pensez de ce matériau ?
Dolores Bertrais.
Le béton, il y a des travaux là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste du béton. Mais en revanche, voilà, il y en a qui proposent de désarmer le béton. Il y en a qui proposent de faire plein de choses avec le béton. Mais clairement, c'est un matériau qui a permis tellement de choses aussi dans ce que vous venez d'évoquer en termes techniques et d'infrastructures. Donc, le béton, c'est une époque. Maintenant, il y a des matériaux alternatifs. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aussi à ces matériaux alternatifs. Et notamment, on a mentionné tout à l'heure l'argile, mais on peut parler aussi des constructions en paille, en terre, des constructions en bois et autres matériaux biosourcés.
Alors, pour les naïfs comme que je suis, hein, les ignares, donc le béton, c'est du sable, du gravier, du ciment et de l'eau. C'est ça. Et après, il y a toutes sortes de bétons en fonction de la taille des graviers ou la taille le genre de ciment.
Oui,
et
puis on va dire la finition qu'on veut lui donner également.
Et donc, le béton, c'est le grand consommateur de sable.
A priori.
Oui.
On va faire une petite pause musicale. Pavillon Nomade, c'est la radio qui met son grain de sable, qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas forcément et à celles et ceux qui sont parfois en marge. Et c'est aussi, comme je viens de le dire, une radio qui s'autorise des pauses musicales en relation, généralement, avec ce que nous venons d'entendre. Et donc, une chanson de circonstance datant de 1972 que l'on doit aux deux Jacques, Dutronc et Lanzmann, un classique de la chanson française, ici dans la version jazzy du père et du fils Dutronc.
Un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin,
avec deux arbres, un pommier et un sapin.
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin,
passa un homme qui, au revers de son veston,
portait une fleur de béton.
Dans le jardin, une voix chanta:
de grâce, de grâce, monsieur le promoteur.
De grâce, préservez cette grâce.
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur.
Petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin,
avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers a de son veston.
Portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta.
De grâce, monsieur le promoteur.
De grâce, réservez cette grâce.
De grâce, monsieur le promoteur.
Ne coupez pas mes fleurs. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre-urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin
au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
La poésie et la nostalgie réunies dans cette chanson, c'était une époque où les HLM remplaçaient les petits pavillons. Vous écoutez Pavillon Nomade, la radio qui se balade. Aujourd'hui, nous sommes à Genève, au rendez-vous de l'urbanisme, en compagnie de Dolores Bertret et Camille Fréchou.
Dolores, revenons aux origines. Je vois que vous êtes à l'Université de Genève, vous avez travaillé à Paris, vous vous intéressez au Cambodge, vous avez un projet au Rwanda. Comment on s'est... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez un intérêt pour ces lieux aussi éloignés ?
C'est une bonne question. C'est des parcours personnels et professionnels, en effet. Donc, j'ai travaillé avec l'atelier parisien d'urbanisme, mais en fait, j'étais détachée au Cambodge. Donc, c'était dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la ville de Paris et la municipalité de Phnom Penh. Et en fait, à la suite de cette expérience professionnelle, c'est là où j'ai commencé une thèse sur la question de la ville verte, et notamment dans les pays dits du sud global, donc au Cambodge et au Rwanda. C'était une comparaison, quoi.
Et puis, une autre question. Pour qui vous avez écrit cet ouvrage ? Parce qu'il est richement illustré, par moments, on dirait un roman graphique. C'est vous qui avez fait les illustrations. Hein.
Donc, ouais,
pourquoi vous avez choisi un projet qui était financé par le Fonds national de la recherche scientifique ? On n'est pas habitué de les voir sous cette forme. Pour qui vous l'avez écrit ?
Je l'écris déjà pour j'espère, toucher des publics néophytes. Avant tout, donc les personnes qui ne sont pas forcément familières avec les questions urbaines ou avec les questions de sol ou de sable ou de production urbaine, comme on l'appelle. Et donc ça, évidemment, c'était aussi en partenariat avec l'éditeur Métis Press, donc qui a déjà une ligne, on va dire, de collection qui est plutôt riche en illustrations. Et là, pour le coup, le fait qu'il y ait énormément de dessins, ça fait partie de ma méthodologie de travail, c'est-à-dire que quand on est paysagiste, on s'imprègne d'un site en général, et en s'imprégnant du site, on sort son carnet et puis on réfléchit en même temps qu'on dessine, ou en tout cas le dessin amène à la fois à cette posture, on va dire, épistémologique, donc le fait de réfléchir sur le site, par le site, et donc avec le site, et d'avoir le carnet et les crayons à portée de main, ça aide à voir le paysage différemment, et surtout à imaginer tout ce qui est invisible et qui ne peut pas parler, comme la vie du grain de sable. Donc voilà, moi je suis la vie de ce grain de sable hors de l'eau, pour voir un petit peu ces pérégrinations, où est-ce qu'ils nous emmènent, et puis quels acteurs en fait aussi sont entremêlés avec ce grain de sable, parce que c'est foisonnant et c'est très riche entre les pêcheurs qui perdent tout parce que il y a des extractions dans le Mékong, il y a plus de poissons, les habitants qui vivent sur les rives de berges qui s'effondrent, mais aussi les promoteurs immobiliers qui tirent évidemment une rente de ce sable qui a été transformé dans le béton. Donc c'est autant d'acteurs qui gravitent autour du grain de sable.
Et vous avez mis votre petit grain de sable aussi, on pourrait dire, dans les rouages de la société capitaliste, si je lis la quatrième de couverture.
Voilà, c'était un peu l'idée de réinterroger en fait ce métabolisme urbain. Donc tous ces flux qui circulent, que ce soit des flux visibles, mais aussi des personnes, des biens, mais aussi des flux invisibles en fait. Et notamment tout ce qui est les matériaux, de comprendre en fait que l'arrière-pays nourrit la métropole, comme c'est le cas en fait de Genève par exemple. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, d'où est-ce que vient le sable de Suisse. Alors de Suisse, je ne saurais pas répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas, il y a énormément de granulats qui circulent de manière transfrontalière. Et quotidiennement, on voit énormément de barges qui traversent le Léman. On voit aussi énormément de camions qui traversent la frontière entre, par exemple, la carrière du Salève, qui est juste à côté, et typiquement un chantier comme le PAV, où on se trouve à deux pas, pour ne pas dire qu'on est dessus. Tout ça, en fait, ça questionne le métabolisme et d'où viennent les ressources qui permettent à la ville de s'accroître.
C'est étonnant d'entendre parler de métabolisme ou de flux lorsqu'on parle de l'immobilier. Avant que le grain de sable soit immobilisé dans le béton, il se déplace.
Il a une vie. Je me demandais s'il y a, chez les paysagistes, un socle commun. Vous avez vécu au Rwanda, au Cambodge. Camille Fréchoux, vous vivez en France. Vous vous êtes aussi déplacée dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a une manière propre, peut-être, aux paysagistes européens d'investir l'espace, comparé aux autres paysagistes rwandais, cambodgiens? Est-ce que ça...
Alors, déjà, par exemple, typiquement, des écoles de paysage au Cambodge ou au Rwanda, il n'y en a pas. Donc, en fait, la pratique, déjà, du paysage, ça reste circonscrit à certaines zones géographiques. Je pense qu'on a quand même un vocabulaire commun, ou en tout cas une sensibilité. Et c'est ce qu'on apprend dans les écoles de paysage, c'est à être sensible, en tout cas avec tous ses sens, de les mettre en éveil pour aussi observer un paysage.
Camille Fréchoux ?
Je suis bien d'accord. Je pense qu'après, en effet, il y a autant d'approches que de paysagistes, mais on a un socle commun, un langage commun. Une méthodologie aussi, je pense, assez forte et particulière à notre métier. Et après, c'est vrai qu'on, je pense, comme dans plein d'autres métiers, comme en architecture par exemple, où après on développe des approches ou des angles d'attaque différents.
Il y a une exposition ici au pavillon Cycli. Je crois qu'il y a 6 HES différentes qui ont travaillé sur l'urbanisation et ce quartier, ce projet, donc des écoles de santé, de travail social, de paysagistes, des écoles d'art. Et souvent, maintenant, on tente de relier toutes ces approches. Est-ce qu'il est vraiment possible de relier ces diverses approches, ou au final, c'est que l'école de commerce qui a la parole?
On espère apporter une voix dissonante, en tout cas de simplement l'école de commerce. L'idée, je pense, c'est de faire aujourd'hui peut-être du transdisciplinaire au maximum, de réunir les acteurs qui ont des visions complémentaires en fait sur l'élément, que ce soit l'objet ville ou d'autres objets d'études. Mais prenez pour la transdisciplinarité, moi, c'est quelque chose que je porte dans mes études, quoi.
Oui, c'est quelque chose qu'on apprend en fait quand on est paysagiste. Enfin, on travaille tout le temps avec et d'autres corps de métier, quoi, que ce soit l'hydrologie, la géologie, la botanique, enfin l'écologie, enfin au sens large, enfin la faune aussi. Je pense quand même que ça force, en tout cas, on nous apprend une espèce de modestie. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, moi, je suis experte de rien, mais je pense que c'est assez partagé chez les paysagistes, cette posture-là. En fait, on est censé aussi avoir cette vision transversale, quoi. de faire communiquer plusieurs visions selon différents angles de vue et de corps de métier. Quoi. Et ça, c'est intéressant, je trouve.
Vous avez dit qu'il y a une approche sensible. Bon, c'est clair qu'on parle beaucoup du toucher. Là, quand on marche sur du gravier ou sur des goudrons brûlants, le paysage, il est d'abord visible. Donc ça s'adresse à l'œil. Il y a deux jours, il y a un jeune architecte là, qui prépare un master et puis qui voulait réfléchir à la notion sonore du paysage. Est-ce que vous avez déjà des approches et est-ce qu'on pourrait considérer le son autrement que comme une nuisance dans l'espace urbain?
Dolores Bertret.
En tout cas, il y a des collègues qui font des travaux à ce sujet sur des paysages sonores et notamment de replacer aussi des paysages sonores qui sont peut-être en train de disparaître, donc de les replacer aussi sur des cartes. En fait, c'est aussi comment est-ce qu'on matérialise ces paysages sonores pour qu'on n'entende pas simplement le marteau-piqueur et le bruit des grues, mais aussi voilà, des paysages sonores, celui de l'oiseau qui migre à telle date chaque année, celui du bruit du vent parce que là il y a la bise qui vient d'arriver. Enfin, donc c'est vraiment d'être sensibilisé aussi à ce paysage sonore.
Mais est-ce que Louis n'a pas été la grande oubliée du paysage? J'habite les Alpes, alors il y a plein d'hôtels Belvédère, beau site, belle vue, hôtel Panorama, mais il n'y a jamais...
Hôtel Pavillon Nomade?
Non, voilà. Non. Pourquoi?
En tout cas, je l'explique dans ma pratique du dessin. Déjà, j'explique qu'il n'y a pas uniquement la position de l'œil qui va compter. C'est-à-dire qu'on ressent. On ressent des choses et aussi quand on communique avec les gens avec qui peut-être on collabore pour le dessin ou les gens qui viennent nous voir et avec qui on discute pour le dessin, en fait, ils nous communiquent des éléments. Et typiquement, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à faire sortir d'autres paysages, mais aussi des paysages finalement odorants, quoi, quelque part. Ça peut être aussi ça. Et dans l'écriture, c'est aussi... sortir des schémas simplement de l'un paysage, c'est une vue. Non, paysage, c'est beaucoup plus que ça.
Je suis d'accord, mais serait-ce justement pas à cause du dessin qu'on est arrivé au pittoresque? Ça veut dire que le beau paysage, c'est celui qui est digne d'être peint ou d'être photographié.
Ouais, ça, c'est la vision naturaliste. Oui, qui a fait peut-être date, mais j'imagine qu'il faut aussi décentrer le dessin comme étant une pratique qui... admettons, date du 17e, 18e siècle. L'humain dessine depuis la nuit des temps. Dans les grottes, on dessinait déjà. Et puis, il n'y a pas que l'humain qui dessine. Il y a aussi le paysage. Il dessine typiquement, il y a des cours d'eau qui dessinent eux-mêmes leur lit. Alors après, il y a l'humain qui canalise certains cours d'eau, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est aussi de sortir de cette idée de le dessin, c'est le propre de l'homme ou de l'humain. Non. En fait, le dessin, c'est le propre de ce socle qui nous entoure. Quoi.
Oscar Wilde disait d'ailleurs que la nature imite l'art.
Moi, je rajoute quelque chose parce que je ne peux pas rebondir sur ça. Il faudrait écrire pendant 3 heures une copie. Mais on parle du paysage sonore. Tu parlais aussi de l'olfactif, mais c'est marrant parce que nous, on avait des vieux profs à l'école. Et en fait, quand on dans nos études, on apprend à analyser les sols, mais analyser les sols pas comme des scientifiques, mais c'est-à-dire réussir à comprendre sur quel sol on se situe en analysant, par exemple, le type de plante qui est installée, mais aussi en le touchant, ce sol. Donc, à comprendre combien de pourcentage il y a d'argile dedans, de sable. En fait, c'est des manipulations. Donc, c'est à la fois la texture, à la fois la chimie aussi. Pour la chimie, on a des petits tests comme ça avec des bandelettes. C'est peut-être le seul où on a un outil un peu scientifique, disons. Mais autrefois, les vieux profs, ils goûtaient aussi le sol pour savoir. En fait, ils en mettaient un petit peu comme ça sur leur langue pour comprendre. Et puis ceux qui étaient à la retraite, ils faisaient la blague en disant qu'ils avaient dû ingérer tant de kilos de terre dans toute leur vie. Et c'est quelque chose que nous, on n'a pas pris par la suite, parce que je pense qu'aussi avec les générations, on a vraiment pris de plus en plus conscience de cette pollution du sol, en fait, qu'on avait. Et donc j'avoue que moi, ça ne fait pas partie de ma méthode de reconnaissance.
De goûter?
Ouais, je ne le fais plus. Mais en fait, ça permet...
Mais vous l'avez fait?
Je l'ai fait, oui, pour comprendre pourquoi ils faisaient ça, mais c'est très très intéressant parce que tu parlais du limon, en fait, de la granulométrie, et typiquement, en fait, c'est drôle que je vous parle de ça, mais bon, la langue, c'est quand même ça permet d'affiner beaucoup plus qu'on peut le faire avec les doigts. Ça permet aussi de capter des choses un peu chimiques. Donc ça, voilà, je voulais rebondir sur ce que, pour moi, à un moment donné, ça peut devenir aussi quelque chose de l'ordre du goûter.
Mais vous allez être surprise. J'ai interviewé des travailleurs d'une raffinerie de pétrole. Et ils goûtent le pétrole et peuvent dire d'où il vient à partir de son goût.
Tout simplement. Ben, ça fait sens, oui.
Dolores Bertrais, vous avez goûté le sable, là ?
Non, je ne l'ai pas goûté. Mais je l'ai bien observé, par contre. Et qu'il est tellement différent d'un endroit à l'autre. C'est assez passionnant, d'ailleurs. Quand on rentre dans les différentes colorimétries du sable, parce que dépendamment des roches mères, on n'a pas les mêmes couleurs de sable. Donc, par exemple, une roche volcanique ou du basalte, ça va être plutôt un sable noir. Un sable blanc, ça va venir des coraux, par exemple. Et donc là, on rentre aussi dans une palette de couleurs et de nuances qui est incroyable et qui est quasiment sans fin, en fait.
Ça s'observe au microscope, hein ? Ou bien avec des outils à l'œil,
on peut vraiment rentrer
dans le... Si vous voulez rentrer dans le...
Mais on peut observer juste à l'œil, la différence des couleurs, elle est assez visible.
Comment on fait alors on est sur une radio, on s'intéresse au son. Alors comment on fait pour améliorer la qualité sonore d'un quartier ou d'un espace? Qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui? Non pas d'éliminer la rumeur inaudible de la circulation, mais de créer un paysage sonore, une musique, est-ce possible? Quels seraient les outils dans ce cas-là pour améliorer le...
Bah, c'est une vraie question que vous me posez, parce que moi j'habite sur un boulevard. Et c'est vrai que tous les matins et tous les soirs, je me dis, mais waouh, en fait c'est tellement violent, cette violence sonore, elle est vraiment présente et omniprésente. On a la chance d'avoir des ouvertures qui sont quand même qui nous protègent, on va dire, au niveau phonique, mais clairement il y a des éléments à retravailler, et à mon avis tout de même au niveau des flux de circulation il y a quelque chose à élaborer à ce sujet. Puis après il y a peut-être des juridictions ou des lois pour aussi limiter en fait des nuisances sonores de certains véhicules, ou que ce soit deux roues ou quatre ou plus, mais qui limite tout ça, quoi.
Oui, mais la loi permet de réduire la nuisance, mais pas encore de créer de la musique, si vous voulez. Est-ce qu'on pourrait, justement, je ne sais pas, par des graviers, par des fontaines, par des sonnettes, des clochettes, des...
Bah, les bruits d'eau, ça permet... c'est parfois utilisé, oui, les fontaines, notamment, pour détourner l'attention, détourner l'oreille. Mais en fait, il y a une fausse croyance comme ça aussi, que si on veut se protéger du son, on peut mettre une haie ou un rideau d'arbre. C'est presque plus psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne voyez pas ce qui produit la nuisance sonore, vous l'entendez moins. C'est plutôt des ressorts psychologiques comme ça, de détournement de l'attention, de l'oreille. Mais bon, clairement, en fait, il faudra enlever les voitures et puis avoir moins aussi de zones, parce qu'en fait, ça rebondit partout, quoi, sur les surfaces bétonnées, justement. Donc, il faut vraiment voir ça comme une espèce de flipper. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Et donc, à un moment donné, faut réduire la circulation.
Alors, restons dans le sensible. Vous avez parlé là, du goût. On parle un peu de l'ouïe. On a juste abordé là, l'odorat. Est-ce qu'on... Lorsque vous prévoyez un aménagement, vous pensez aux odeurs, aux parfums, qui sont parfois même entêtantes de certaines plantes?
Camille Fréchoux.
Ben, évidemment, je pense aux floraisons. Aux floraisons, en fait, forcément, qu'on peut avoir. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Après... Après, aux autres odeurs, je pense que globalement, on essaie de ne pas en générer de mauvaises. Après tout ça, je pense qu'on parlait du pittoresque tout à l'heure, mais je pense que pour la question des odeurs, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il y a une espèce de... il y a une évolution qui est en train de se faire, ou qu'il faut avoir du moins pour réaccepter aussi d'avoir des odeurs plus organiques, quoi. Je pense notamment aux zones de compostage, de compost. De plus en plus, elles deviennent visibles dans les parcs publics ou dans les, je sais pas, même dans les jardins privés d'ailleurs. C'est de plus en plus accepté, Et moi, je trouve que ça pue pas un compost quand c'est bien fait, par exemple. Mais vous voyez, c'est tout un... C'est tout un apprentissage, en fait, à accepter.
Surtout en Suisse, on est le pays du propre en ordre. Je sais que dans certaines communes ou villes, on a réduit les entretiens. Il y a des habitants qui se plaignent. Ils disent « ça fait chenille ». Vous connaissez l'expression ?« Ça fait chenille ».
Même moi, je la connais, à votre expression. Pourtant, nous, on est bons aussi en termes d'ordre et de propreté. On a quand même fait le jardin à la française, quoi. Mais c'est vrai que... Mais en fait, toute cette question-là, elle est essentielle, parce qu'on parle du sol, mais dans ce cas-là, là, on peut parler de tout le vivant et de la question des espaces publics et des jardins. C'est une question de changer un peu son regard, en fait, de comprendre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pense que quand on est du métier ou quand on aime les plantes, les animaux, en fait, on peut pas trouver beau, en fait, un jardin qui est désherbé chimiquement, qui a un sol qui est tout le temps décapé, tassé. Il y a plein de pratiques dans le jardin comme ça qui sont assez délétères, puis qui sont dirigées par un besoin de contrôle et de propreté, et qui sont vraiment anti-vivants au possible. Et ça, typiquement, je pense que plus on avance dans le temps, plus on arrive à... Enfin, moi, je trouve ça laid, en fait. Une terre battue, nue, qui est complètement battue par l'eau, par le vent... Et par contre, un sol où il y aura un paillage ou une matière organique dessus.
Ces petits graviers blancs là du cimetière, vous aimez pas ?
Ben, en fait, les petits graviers blancs du cimetière, je sais pas pour vous en Suisse, mais nous en France, maintenant, on a interdiction. C'était le dernier bastion, on avait le droit de mettre du glyphosate, mais on n'a plus le droit dans les cimetières. Et donc toutes ces grandes surfaces de gravier qui sont signées années 60, donc début de la chimie, quoi. C'est-à-dire l'agent orange qu'on a ramené du Vietnam, on s'est dit tiens, on va les utiliser dans le jardin. Et ben en fait, toutes ces allées engravillonnées, en fait, c'est assez récent, quoi, dans notre histoire, quoi. C'est-à-dire c'est les années 60, 70. Et maintenant, par exemple, dans les cimetières, on est en train de revenir à tout réenherber, quoi. Et en fait, si vous parlez aux vieux jardiniers là qui ont 80 ans à la campagne, ils racontent qu'ils faisaient des bottes de foin, en fait, dans les cimetières, par exemple. Donc c'est un peu une excentricité, ces graviers, pour moi.
Moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous abordez, en tant que paysagiste, les défis de demain ? Dolores Bertret. Bah, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais...
Non.
Mais ça rejoint ce que dit Camille Fréchou.
Bah, c'est par la transmission, je pense que... Ça, c'est des vraies questions qu'on se pose, en tout cas, dans l'enseignement. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne ? Qu'est-ce qu'on... peut transmettre et comment on collabore avec nos étudiants et étudiantes pour imaginer le monde de demain.
Parce que c'est une vision très terre à terre que j'ai, mais les plantations, par exemple, elles se déploient pas tout de suite. Donc il faut un certain temps pour que ça pousse. Donc quand vous plantez, comment est-ce que vous voyez la structure de là où vous plantez les
nous,
fleurs
nous, on
les
la
massifs.
Voit. C'est... mais c'est vrai qu'il y a toujours un... Bon, je pense, je sais pas comment toi tu te sens, mais quand on est paysagiste ou jardinière, il y a toujours un décalage temporel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans une société où on est dans l'hyperconsommation, l'hyper efficacité, le rendu immédiat. Et en fait, nous, on travaille sur des temps qui sont plutôt longs. Dans 10 ans, notre jardin, notre parc, il commence à avoir à peu près la structure qu'on lui imagine, quoi. Et vous plantez un arbre, c'est-à-dire que moi, je le verrai, il aura peut-être 50 ans, quoi, grand max, à la fin de ma vie, quoi. Donc, alors qu'un arbre, ça peut vivre plusieurs centaines d'années. Donc, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'on est souvent en lutte quand même avec, même avec le monde de l'architecture. Je suis désolée pour les architectes, mais en fait, quand on livre un projet, nous, paysagistes, ça commence, en fait, quoi. Et c'est vrai que, du coup, vous inaugurez avec... un semis qui a été fait il y a 15 jours, des arbres très jeunes, en fait, qui sont...
Qui font un peu rikiki, ces petits chênes.
Oui,
ouais.
Mais ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut être intransigeant. Sinon, si nous, on ne fait pas ça, paysagiste, si on lâche là-dessus. Parce que ça s'est fait énormément, de planter des arbres très âgés de vouloir avoir des rendus immédiats. Et en fait, ça s'est fait beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça se fait encore énormément.
Bah, en tout cas, à mon avis, il faut repenser la notion du projet. Et comme on le disait il y a deux jours, c'est qu'on ne rentrerait plus par le projet, par les bâtiments, mais peut-être qu'on rentrerait par le paysage en fait en premier. Et que du coup, en fait, au bout de 10-15 ans, OK, là, on ferait intervenir éventuellement les bâtiments, les infrastructures, etc. Mais en effet, de rentrer par le paysage, bah, déjà, ce serait un changement de paradigme qui serait potentiellement souhaitable pour la suite.
Mais en tout cas, je trouve que... Bon, moi, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est pas facile de vivre avec cette crise environnementale, climatique. C'est désespérant, et puis c'est un peu un euphémisme de dire désespérant, mais je trouve que c'est intéressant d'être paysagiste parce que, en tout cas, ça donne le sentiment d'avoir un levier d'action, quoi. Et aussi, tu parlais de l'enseignement. Moi aussi, je suis enseignante, et ça, c'est vrai que c'est vraiment important, quoi. Enfin, ça donne le sentiment aussi que voilà, on peut développer un travail collectif. Et pareil aussi, en fait, le caractère didactique de notre métier, ou pédagogue, je sais pas comment on dit, mais en fait, on est un peu des j'allais dire vulgarisateurs, mais c'est dans le sens très positif du terme, c'est-à-dire qu'on, en fait, l'idée, c'est d'embarquer les gens avec nous quand même, quoi. Et c'est pour ça que toi, tu fais un livre comme ça avec des... Enfin, c'est vrai que pour un travail de recherche, c'est particulièrement abordable, en fait, ces dessins et tout. Enfin, ça donne envie de rentrer dedans. C'est positif, ce que j'essaie de dire. Mais
moi, j'ai l'impression du contraire. C'est, on entre dans le siècle des paysagistes. Parce que là, on a eu un siècle d'urbanisme, de béton, de goudron. Et maintenant, on parle de la ville chaude. Il faut développer des canopées. Faire émerger les sols, les plantes. J'ai l'impression que c'est votre siècle qui débute.
Qu'est-ce que vous en pensez, Dolores Bertret ?
Ben, disons que, en fait, au-delà du fait que ce soit notre siècle ou pas, c'est surtout que je me dis qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la ville, peut-être un peu trop, et qu'on est en train de suivre des discours onusiens qui nous expliquent que d'ici 2050, il y aura 70% de la population qui sera en ville, ou 70%, parce qu'on est en Suisse, donc je dis 70%, pardon.
Merci.
Et en fait, c'est aussi ces discours-là, peut-être qu'il est temps de déconstruire d'une certaine manière, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi dans les territoires, dans des zones qui sont plutôt à la marge et qui sont pleins d'espoir surtout, et qui proposent des alternatives peut-être à un tout béton, à peut-être un manque de liens sociaux comme on est en train peut-être de subir dans certaines villes, ou en tout cas certaines personnes le subissent dans certaines villes. Et donc en fait, c'est d'aller explorer aussi ces marges-là pour apporter d'autres discours, et c'est pas une fatalité en fait d'avoir une ville qui deviendra forcément oui, on va planter 2-3 arbres, mais comme on le voit au cours de ces rendez-vous de l'urbanisme, on se rend compte qu'en fait amener le végétal en ville, c'est pas si simple. Il y a énormément de problématiques, il y a la composition avec ce qui se passe en sous-sol, il y a aussi le fait d'avoir peut-être des monocultures d'arbres finalement qui vont faire en sorte que bah, l'arbre il va pas se sentir bien en fait. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à la place de l'arbre en tant qu'arbre? Et c'est les travaux de Véronique Moore, elle travaille en fait sur la positionnalité de l'arbre. Si on était un arbre, en fait, est-ce qu'on se plairait dans la ville de Genève, par exemple ?
Moi, je pense que 90% des humains devraient vivre en ville. La campagne, c'est pour les chèvres, les vaches et les moutons. Je pense qu'on met des humains à la campagne. Et puis, la place des arbres, c'est dans la forêt. Donc, on pourrait avoir, comme ici, on a sur le pavé, on a des arbres en métal.
Eh ben...
vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, il y a un arbre en métal. Je me suis dit, ça, c'est l'avenir, peut-être, du paysagisme, des arbres en métal. Bon.
Moi, je ne travaille plus en ville. Donc, moi, j'ai vécu et j'ai travaillé à Paris pendant longtemps. Et j'avoue que ça, à un moment donné, aussi, le Grand Paris, tout le développement qu'on avait, enfin, en fait, ça me... Enfin, moi, j'y crois pas, quoi. D'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, en tout cas, je n'adhère pas. J'ai eu besoin, comme ça, d'aller exploiter plutôt les projets en milieu ruraux, quoi. Et d'ailleurs, Porteus, c'est en ville, mais bon. C'est quand même la marge de la ville. Et puis, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. En effet, il y a beaucoup de choses qui se passent hors de la ville. Et peut-être qu'une des solutions aussi, c'est peut-être un peu de... de se décentraliser, ouais.
Moi, j'aime bien l'idée de se penser en arbre. Merci. On arrive au terme de cette émission Hors les murs. Merci à vous d'y avoir participé, Dolores Bertret et Camille Fréchoux. On espère vous avoir donné envie de venir partager avec nous. Pavillon Nomade, c'est une radio qui marche, qui écoute, qui partage. Et demain, peut-être, on sera chez vous. En tout cas, si vous êtes intéressés, contactez-nous par le biais du site www.pavillonnomade.ch. Un site où vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres, ainsi que des portraits d'artistes, des rencontres et des podcasts historiques, sans oublier les directs tous les jeudis entre 15h30 et 16h30, où Pavillon Nomade donne la parole aux résidents et résidentes de l'hôpital psychiatrique de Malévaux. À bientôt, ici ou ailleurs, et surtout, continuez à faire vivre les histoires, les vôtres, les nôtres, et à les partager. Merci à Dominique pour la réalisation. On se quitte en musique.
Un ciel nacré peuplé d'étourneaux. Les nuages étiolés, c'est le village. Nos miroirs aux cieux s'accrochent. Tu regardes si bas ce caniveau. Loin de tes rares proches, revide, tu décroches. Parole au milieu des étourneaux, tu vomis ce putain de caniveau. Stary zone.
Home sweet home.
There is a mark.